Soir Première, CQF, ce qui fait débat.
Et ce qui fait débat ce soir, ce sont donc les résultats de ces élections de mi-mandat la nuit dernière aux États-Unis. Vous le savez, les démocrates ont repris la majorité du côté de la Chambre des représentants. Par contre, les républicains ont gardé et même accentué leur majorité du côté du Sénat. Alors, qui a gagné, qui a perdu, qui a vraiment gagné en fait cette élection de mi-mandat? Chaque camp crie victoire et nous, on va poser la question à deux invités ce soir qui vont débattre avec nous. Avec nous, Jérôme Jamin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Liège et vous occupez notamment des mouvements populistes et d'extrême droite. Avec nous aussi Benoît Friedman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie du droit et membre du centre Perelman de philo du droit de l'ULB. Bonsoir à vous.
CQFD.
Alors je vous pose la question, cash d'abord à l'un et à l'autre, peut-être d'abord Jérôme Jamin, qui a gagné pour vous dans ces élections?
Alors, je pense que celui qui a gagné, c'est le Parti républicain, mais à travers lui, Donald Trump, et à travers le parti et Donald Trump, je dirais, un phénomène qu'on va appeler le Trumpisme, dans le sens où cette élection s'est passée de façon tellement banale, parce qu'on pourrait y revenir, mais il ne s'est passé absolument rien d'exceptionnel, c'est extrêmement fréquent dans l'histoire politique américaine très ancienne, pas récente, très ancienne, que deux ans après l'arrivée d'un président à la Maison-Blanche, son propre camp se prenne une petite ou une grosse baffe aux élections de mi-mandat. Roosevelt y a échappé, c'était juste un peu après la crise de 29. Bush, fils, Walker Bush a échappé à cela en 2002, c'était après le 11 septembre. Tous les autres, depuis la guerre civile, c'est connu. Et d'ailleurs, les pères fondateurs le disaient, il faut qu'il y ait de la part de la population un outil qui permet deux ans après l'investiture d'un président d'envoyer un signal. Mmh. Donc c'est très fréquent qu'il y a une perte dans une chambre, dans les deux chambres, et c'est très fréquent que ces pertes ne soient pas énormes, que ce soit une trentaine, en l'occurrence ici, de députés du côté de la chambre et quelques sénateurs de l'autre, où ils gagnent cette fois-ci. Donc c'est banal, et donc si c'est banal, c'est une grande victoire pour Donald Trump. Ça veut dire qu'un individu peut, pendant deux ans, instituer en haut lieu, au sommet de l'État, institutionnaliser un discours raciste, xénophobe, violent, autoritaire et démagogique. Et la réponse, deux ans plus tard, c'est que ça se passe comme n'importe quel président. Je pense que, de ce point de vue-là, c'est lui le vainqueur.
Alors, votre réponse à vous, Benoît Friedman, par rapport à cette question, qui a gagné hier? On a entendu Jérôme Jamin dire « c'est plutôt Donald Trump, puisque ça s'est passé comme une élection normale, malgré ce président jugé par beaucoup comme anormal ».
Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme Jamin, dans la mesure où, effectivement, malgré le fait que presque contre l'avis de tous, Donald Trump a choisi de faire campagne sur l'idée d'une invasion des États-Unis par une caravane de migrants à 1000 km de là, en convoquant l'armée, en appelant à faire feu, etc. Et qu'il a obtenu les résultats qui viennent d'être décrits, avec une banalisation de son discours qui fait vraiment chauffer à blanc la peur de l'invasion et du coup la haine et risque de déchaîner, comme c'est déjà le cas, la violence politique, effectivement, c'est une forme de victoire. Maintenant, je voudrais aussi souligner quand même, pour ne pas être purement dans le noir, je pense que c'est aussi la victoire des femmes, cette élection. D'abord parce que les femmes, et c'est la première fois dans des élections de mi-mandat, ont plus voté que les hommes. Ensuite, parce que 60% d'entre elles ont voté contre les candidats républicains. Et enfin, parce que les sièges qui ont été gagnés et qui ont permis quand même de changer la majorité à la Chambre, ce qui n'est pas rien, mm-hmm. ça change quelque chose dans l'équilibre des pouvoirs, on va voir quoi, ce sont elles qui les ont conquis. Et donc, on a bien sûr, on a une opposition, une division qui est extrêmement dangereuse, qui est en train de se mettre en place avec les oppositions à Trump qui sont les femmes, les minorités et les personnes diplômées, ce qui, en creux, dessine l'électeur type de Donald Trump, c'est-à-dire le mâle blanc sans diplôme, qui a terriblement peur d'être submergé et qui est prêt effectivement, qui est prêt à se mobiliser très fortement pour participer à ces discours de, pour répondre par un vote à ces discours de, d'appel à la violence et à la haine en tout cas.
Donc on a une Amérique clivée, on a un Donald Trump qui peut légitimement estimer qu'il s'est plutôt bien sorti de cette épreuve, et puis on a quand même, vous nous le dites ici ce soir, Benoît Friedman, les femmes en particulier qui ont percé, qui ont permis aux démocrates de reprendre la, la Chambre des représentants. Alors justement, regardons un petit peu ce que ça pourrait donner pour la suite, parce que c'est ça aussi qui est intéressant à voir. On a deux ans maintenant à venir avant la, la prochaine présidentielle. Jérôme Jamin, le fait que les démocrates aient repris la majorité à la Chambre, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça ouvre une situation compliquée politiquement pour le président Trump?
Je dirais que Donald Trump va se retrouver dans une moindre mesure dans une situation qu'ont connu beaucoup de ses prédécesseurs, et notamment Barack Obama et Bill Clinton. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir négocier avec les membres du Parti républicain, parce qu'il faut bien se dire qu'un président républicain ou démocrate n'est pas le chef de la majorité, l'appareil du parti, ce n'est pas le président du parti qui peut peser sur les députés en les menaçant de ne plus être présents sur des listes, en les menaçant de ne pas obtenir des postes à responsabilité dans l'appareil ou ailleurs. Le parti républicain et le parti démocrate, qu'est-ce que c'est? C'est un conglomérat de mini-partis à l'échelle de tous les États fédérés, et les élus ont une très grande indépendance. Donc le président Donald Trump, qu'a-t-il dû apprendre ces deux dernières années? C'est de négocier avec les républicains, avec chaque républicain pour obtenir des choses. Et ça a été très compliqué. On y reviendra, mais il y a un système de poids et de contrepoids aux États-Unis qui fait que le Congrès n'est pas soumis à la Maison-Blanche, et on montre souvent les présidents dans le bureau ovale avec un téléphone. C'est pas du tout une image. Ils passent leur temps à téléphoner à des dignitaires de leur propre parti ou du parti opposé pour obtenir des voix par rapport à une loi ou un projet que le président soutient.
Ça veut dire qu'il n'avait pas un congrès à sa main déjà, là maintenant.
Ah non.
Donc,
non.
Il ne découvre pas ce que c'est d'avoir un congrès avec qui il faut composer.
Si c'était le cas, il aurait pu complètement changer, abroger l'Affordable Care Act, le ACA, le dit Obamacare, et il n'y est pas parvenu. Pour toutes sortes de raisons, en essayant de négocier avec les deux camps. Et il y a bien d'autres domaines où il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Donc il n'était pas du tout un chef tout-puissant, comme on pourrait un peu l'imaginer quand on voit Emmanuel Macron aujourd'hui en France. Ce n'est pas du tout le même système. Il va donc simplement devoir davantage composer avec les démocrates, ce qu'il faisait déjà. À plusieurs reprises, Donald Trump essayait d'obtenir des voix des démocrates. Il y a aux États-Unis les démocrates et les républicains, mais dans les deux partis, il y a des centristes qui sont prêts à travailler de façon bipartisane. Et un président qui veut avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il décroche son téléphone et il appelle les gens de son parti et du parti adverse. Donc la seule différence qu'il y a maintenant pour ce qui est de la Chambre, c'est qu'il va devoir donner davantage de coups de téléphone. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est qu'il devient de plus en plus potentiellement la cible d'une vengeance. Parce qu'il faut quand même bien indiquer ici que même, je voudrais également, comme mon collègue, ne pas être trop sombre et trop négatif. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant de voir ce qui s'est passé hier, puisqu'il ne s'est rien passé. Or, on pourrait s'imaginer qu'après deux ans, il allait se passer quelque chose. Mais il est évident que la contre-attaque, maintenant, va commencer à prendre forme. Les démocrates peuvent mettre en place toute une série d'enquêtes, de commissions, peuvent poser toute une série de questions, peuvent commencer à fouiller dans toute une série de choses qui vont encore plus mettre la pression sur le président. Donc ça, c'est par rapport à une éventuelle contre-attaque ou par rapport à une éventuelle vengeance. Mais pour le reste, il devra composer avec davantage de personnes qu'avant.
Alors justement, Benoît Friedman, sur ce qui pourrait être des vengeances ou contre-attaques, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Est-ce que Donald Trump doit s'inquiéter du fait que le Congrès, la Chambre, aux mains des démocrates maintenant, pourrait ouvrir toute une série d'enquêtes, de commissions d'enquête, notamment sur le passé de Donald Trump, sur son patrimoine fiscal? Est-ce que même l'idée d'une procédure d'impeachment, qui pourrait, au terme d'un long processus, destituer le président américain, est-ce que ça devient possible avec ce qui s'est passé hier et le fait que les démocrates récupèrent la majorité à la Chambre?
Le fait que les démocrates récupèrent la majorité à la Chambre leur permet effectivement d'exercer ce qui n'est pas une vengeance, ce qui est l'exercice normal de la démocratie, c'est-à-dire le contrôle du gouvernement, le contrôle de l'exécutif. Alors, à la différence d'un régime parlementaire comme la Belgique, le gouvernement n'est pas responsable devant les chambres. Mais les chambres, posent des questions, font des enquêtes, et cela se fait de manière extrêmement forte aux États-Unis et pas nécessairement très feutrée. Donc c'est un important pouvoir, et c'est un pouvoir tout à fait essentiel pour le bon fonctionnement de la démocratie américaine, sachant que les républicains avaient renoncé à exercer ce pouvoir et que c'est la raison pour laquelle une partie des électeurs a voté pour les démocrates, savoir pour qu'on mette des limites à un pouvoir jugé dangereux du président. Alors là-dedans, le principal pouvoir des démocrates, donc à la Chambre, ça va être d'utiliser un pouvoir d'injonction. C'est ce qu'on appelle le supoena, c'est du latin, mais ça veut dire que la Chambre va pouvoir exiger la production d'un certain nombre de documents, l'audition, c'est comme une commission d'enquête chez nous. Donc elle va siéger, il y a un certain nombre de commissions d'enquête permanentes qui vont siéger et qui vont pouvoir... investiguer, alors il y a l'affaire russe, il y a l'affaire du patrimoine de Trump et de la firme Trump, et les deux affaires sont peut-être liées. Et il y a plein d'autres affaires, hein, quand on a laissé des centaines d'enfants, qu'on les a arrêtés, qu'on les a séparés de leurs parents, puis qu'on les a plus retrouvés, et qu'on se demande où sont les enfants maintenant, il y aura une commission d'enquête là-dessus. Et sur les 26 autres choses complètement dingues que risque de faire l'administration Trump dans les deux ans qui viennent.
Mais sur l'enquête du procureur Mueller, justement, oui. On sait que ça, c'est une enquête qui est très embêtante pour Donald Trump, ses soupçons de collusion avec la Russie dans le courant de la campagne de Donald Trump. On sait que certains très proches de Donald Trump, y compris son fils, sont dans le collimateur du procureur. Est-ce que ce qui vient de se passer ici peut changer la donne par rapport au déroulé, à une accélération, à un renforcement d'une enquête comme celle-là?
Oui, alors ce qui va se passer, ce qui était de toute façon prévu, c'est que Trump va licencier son ministre de la Justice et du coup, Rod Rosenstein, qui supervisait Mueller, ne sera plus en charge. Et on va mettre en place quelqu'un d'hyper loyal au président qui va réduire le silence, qui va museler Mueller. Et par rapport à ça, s'il n'y avait pas une majorité à la Chambre, vous savez, ils ne sont même pas obligés de publier le rapport de Mueller. On peut interdire à Mueller de faire tout un tas de mises en accusation qu'il a faites jusqu'à présent. Et donc là, la Chambre va être un relais. Ce n'est pas un relais aussi bon que l'enquête de Mueller, dans la mesure où c'est une structure politique par rapport à quelqu'un dont l'intégrité a été beaucoup discutée, mais en fait est totale. Qui est un républicain d'ailleurs, mais c'est au moins la possibilité de continuer à creuser et de donner des informations publiquement. Autrement, on aurait un étouffement des enquêtes, avec en plus le risque que le public se lasse d'une enquête qui dure trop longtemps et qui ne débouche pas.
Donc ça va protéger quelque part le suivi et le bon déroulement de cette enquête, notamment du procureur Mueller, plus ou moins.
Plus ou moins, pour faire une loi qui protège Mueller, il faudrait l'accord du Sénat. Et on ne l'aura pas. Et on va mettre sous pression le ministre de la Justice de publier le rapport Mueller, mais c'est encore le ministre de la Justice qui décide. Donc, on n'est pas dans quelque chose de, contrairement à ce qu'on entend souvent, y compris aux États-Unis, on n'est pas dans une protection totale de Mueller par la Chambre. Ça, à mon sens, ça n'est pas le cas.
Jérôme Jamin, question alors sur le rôle que va jouer Donald Trump là maintenant, dans les deux ans qui viennent. Est-ce qu'il ne va pas se retrouver quelque part dans son rôle préféré, à savoir qu'ici, il va avoir une chambre qui va peut-être venir le titiller, venir avec des enquêtes contre lui, etc. Et lui, comme il a construit tout son discours sur le fait que les politiciens de Washington veulent l'empêcher de mener son action au service du peuple américain, est-ce que ça ne va pas faciliter, quelque part, cette posture-là pour le populiste Trump ?
Oui, disons que c'est vrai que une des particularités du populisme, quelle que soit l'idéologie sur laquelle le populisme va se greffer, puisque le populisme n'est pas une spécialité d'extrême droite ou de droite, hein, c'est quelque chose qui peut se greffer sur d'autres idéologies. Une des particularités bien connues du populisme, c'est de laisser entendre que le monde est simple, et que donc il peut être dirigé par une population qui va choisir un homme simple et ordinaire, et que si le monde est compliqué, c'est une invention des élites. C'est-à-dire que les élites ont créé de la complexité pour brouiller les pistes. Donc il est évident que plus il y aura des difficultés au Congrès, soit à l'intérieur du Parti républicain, parce qu'au moment où il n'est pas parvenu a abrogé Obamacare et qu'il, de façon très modeste, il parlait déjà d'un Trumpcare, les problèmes venaient surtout de son propre parti. Il a dit, écoutez, ces élites de Washington, je vous l'avais dit, elles ne savent pas travailler pour le peuple.
Donc ce n'est pas seulement les démocrates, c'est aussi de dire quelque part, tout ce que tout le monde va faire, c'est de la faute
des élites. Donc il est évident que tout ce qui va se passer, parce que ce que mon collègue vient d'évoquer, ça peut être facilement être réinterprété comme une menace politique. C'est-à-dire que Mueller, ce n'est plus un procureur indépendant, c'est le bras armé d'une force politique qui refuse le choix de la population. C'est assez facile de dire ça. C'est assez facile de dire aux gens, regardez ce personnage, ça fait 2 ans qu'il n'a rien trouvé, en tout cas sur lui, il a trouvé des choses autour, mais sur lui. Et maintenant, notre ennemi politique va utiliser Mueller pour mettre en difficulté l'homme du peuple. Donc, je dirais, pour quelqu'un qui fonctionne sur une telle simplification de la réalité, c'est clair que c'est une aubaine.
En un mot, est-ce qu'il est favori? Alors là, pour le moment, bon, après, c'est difficile de voir qui va émerger côté démocrate, mais déjà pour se succéder à lui-même, Donald Trump, au vu de ce qui vient de se passer ici cette nuit?
Moi, je suis philosophe de formation et j'attache beaucoup d'importance au concept d'imaginaire. L'imaginaire, ce n'est pas uniquement la culture ou ce n'est pas une décision politique. L'imaginaire, c'est les représentations, c'est les couleurs, c'est les sons, c'est les peurs, c'est les angoisses. Je pense que Donald Trump a réussi en 2 ans à faire beaucoup plus qu'énormément de leaders politiques pour changer l'imaginaire, c'est-à-dire pour changer la vision qu'ont les Américains de leur propre monde, la vision de la menace, la vision du mal, du bien, de là où il faut agir, là où il faut mettre de l'argent. Et quand je vois comment, en 3 ans, il y a 1 an de campagne et 2 ans, en 3 ans, quand je vois comme des choses inacceptables, scandaleuses sont devenues acceptables et ne sont plus considérées comme scandaleuses, je ne vois pas comment, avec tous les outils dont il dispose, il ne marquerait pas encore de nombreux points, d'autant plus que le système politique américain prévoit que le pouvoir, il est au Congrès et que l'art de persuader est à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche n'a pas beaucoup de pouvoir, elle a juste l'art de persuader. Mais pour qu'elle l'ait, elle a des tribunes. Elle a le discours de l'État de l'Union, mais elle a aussi la salle de presse. Elle a toute une série, tout un rituel qui fait que les médias sont en permanence à l'écoute de ce qui se dit à la Maison-Blanche. Et quand on est en permanence au cœur, la tempête, comme dirait Michael Moore pour évoquer un film qui vient de sortir récemment, quand on n'est pas au cœur de la tempête, mais qu'on est soi-même la tempête et qu'on sait utiliser ses outils, on peut changer l'imaginaire.
Et ça, Donald Trump parvient particulièrement bien à le faire, selon vous. Bona Friedman, réaction là-dessus?
Je crois, encore une fois, que c'est exact. Donc, il est parvenu à donner le ton. Je pense qu'il ne faut pas désespérer de la mobilisation des forces anti-Trump, qui sont quand même majoritaires dans le pays, qui s'expriment, qui se mobilisent au niveau, je l'ai dit, des femmes, au niveau des minorités, au niveau des jeunes. Et il est sûr qu'il y a une classe de citoyens, une génération de citoyens qui est en train de devoir faire son choix, soit d'épouser cet imaginaire, soit au contraire de se forger une identité politique dans la lutte contre le fascisme.
Il faudra voir si les démocrates parviennent à agréger évidemment ces forces-là et à les rassembler derrière un même candidat, persuader aussi toutes ces couches de la population d'aller voter en 2020 s'ils veulent pouvoir battre Trump.
De ce point de vue-là, il faut regarder de très près et ce que font les spécialistes politiques américains, mais il y a à boire et à manger, mais les résultats des midterms montrent une mobilisation qui est impressionnante. Il y a aussi le fait que la démographie ne joue pas pour Trump. Parce que cet homme blanc en plein désarroi est en train, effectivement, d'avoir son espace qui se réduit. Et on voit des candidats démocrates élus maintenant au Texas, on voit en Géorgie, on voit dans les États rouges du centre des États-Unis, on voit les banlieues qui votent maintenant bleu.
En 10 secondes, Jérôme.
La sociologie et la démographie jouent contre eux, mais un démagogue peut s'emparer de cela pour dire « Attention les gars, on va disparaître ».
Eh bien écoutez, on va suivre évidemment pendant 2 ans avec beaucoup d'attention ce qui va se passer du côté des États-Unis. Merci en tout cas pour ce débat à tous les deux ce soir. Dans un petit instant, notre page Grand Angle.
J'ai réussi à faire... Soir première, 17h30, 19h. La première et le fonds Victor lancent un nouveau prix. Le prix première Victor du livre jeunesse s'adresse aux jeunes âgés de 12 à 15 ans. Vous êtes professeur, animateur d'un groupe de jeunes, actif dans les mouvements de jeunesse, responsable d'une école de devoirs, actif dans un club de lecture. Participez à cette première édition. Le prix première Victor du livre jeunesse. Plus d'infos sur lapremière.be.